France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Sans demander l'autorisation du Congrès, comme l'exigerait la Constitution, Donald Trump vient de lancer avec Israël une nouvelle guerre contre l'Iran. Ce n'était évidemment pas le thème mardi dernier de son très long discours sur l'état de l'Union, où il affirmait que les États-Unis, grâce à lui, bien sûr, vivaient leur âge d'or, jamais aussi fort, aussi glorieux, aussi puissant, aussi riche. L'heure, ce jour-là, n'était plus à injurier la Cour suprême, qui venait de retoquer en grande partie les droits de douane dits réciproques, déclenchés en avril dernier au nom de la libération de l'économie américaine. Illégal, donc, décide plusieurs mois plus tard, 6 juges contre 3, puisqu'il n'appartient pas à l'exécutif, d'en décider à la place des parlementaires. Pas grave, réplique furieux le locataire de la Maison-Blanche, j'invoque une autre loi d'exception et je frappe les importations de 10%, de 15%, non, de 10%, et tant pis si ce barème ne peut tenir que 5 mois jusqu'en juillet prochain. Donald Trump joue en fait la montre avant les élections de mi-mandat, alors que plus de 60% de ses concitoyens se disent mécontents de sa politique. Qui est maintenant visé par le nouveau système tarifaire? Quel secteur? Tous les partenaires commerciaux sont-ils concernés? Ou quelques-uns plus que d'autres? Plus personne n'y comprend rien. Les taxes indûment répercutées sur les entreprises et les consommateurs américains doivent-elles être remboursées par l'État fédéral? L'arrêt de la Cour suprême n'en dit mot. Une vague de contentieux va déferler sur les tribunaux et le commerce international est à nouveau en plein chaos. Un chaos bien sûr aggravé depuis ce matin par la guerre déclenchée contre l'Iran. Paradoxe, malgré les chocs infligés par la guerre tarifaire, les échanges n'ont cessé de croître, plus de 2,5% l'an dernier. Vont-ils résister à cette nouvelle secousse? Selon les dernières statistiques, les exportations européennes vers les États-Unis ont globalement progressé. Comment l'Union va-t-elle réagir aux nouvelles mesures annoncées? Le Parlement européen a opportunément gelé la ratification des accords conclus l'été dernier en Écosse entre la présidente de la Commission et le président américain. Sont-ils toujours valables? Peuvent-ils être améliorés? Friedrich Merz, le chancelier allemand, doit aller, en principe, mardi prochain à Washington, armé d'une position commune. Ironie de cette nouvelle séquence trumpienne, la Chine en sort gagnante avec des droits de douane en baisse de 7 points, un mois tout juste avant la visite annoncée du président américain à Pékin. La guerre contre l'Iran déclenché ce matin aggrave évidemment un tel climat d'incertitude. Quels sont les effets de ces dérèglements continus du commerce international? Quelles conséquences pour les entreprises et pour les consommateurs que nous sommes? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Anne Desine. Vous êtes juriste américaniste, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre. Elvire Fabry, vous dirigez le programme Commerce et Sécurité économique à l'Institut Jacques Delors. Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, directeur associé de l'initiative Géoéconomie et Géofinance à l'IFRI, et François Schimitz, responsable de Projet Europe à l'Institut Montaigne. Sébastien, première question, bien évidemment, quel impact cette guerre déclenchée donc à l'aube ce matin par Israël, aussitôt soutenue et accompagnée par les États-Unis, quel impact sur l'économie mondiale?
On est vraiment à chaud, donc c'est très difficile de répondre à cette question, mais il y a à la fois le précédent de juin dernier et puis les préoccupations habituelles, j'allais dire, au sujet de l'Iran, qui sont d'abord le détroit d'Ormuz, la sécurité du détroit d'Ormuz et donc du commerce de pétrole, sachant que environ 20% de la consommation totale mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz. Donc là, il y a un point majeur.
Et l'Iran avait menacé de le bloquer.
Absolument. L'Iran sait que c'est un de ses leviers Olivier, qui à la fois est une balle qui se tire dans le pied, parce que ça le gêne lui-même dans ses exportations, mais qui est majeur dans ses implications internationales. Donc, naturellement, tout le monde se tourne vers le marché du pétrole. En juin, il avait augmenté, je crois, de 17% au moment de cette courte guerre de 12 jours. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Il est déjà un peu remonté par rapport au bas de décembre. Le cours du pétrole, il est un peu au-dessus de 70 dollars. Donc, on part d'un niveau... C'est important quand même le niveau de départ. C'est-à-dire, si on partait d'un niveau très haut, ça serait potentiellement, d'un marché très tendu, ça serait potentiellement catastrophique. Là, on est un peu à quelque chose d'intermédiaire. Donc, ça laisse plus de marge de manœuvre, disons, mais pas énormément non plus. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, très rapide lui aussi, c'est l'effet sur la bourse. C'est-à-dire que les marchés financiers, bien sûr, anticipent les conséquences de cette guerre et se posent des questions sur l'évolution du prix de l'énergie, tout de suite, mais aussi un peu plus à terme, et en tire les conséquences. Donc il y a aussi la menace des conséquences boursières, qui ont été, là aussi, si on prend le précédent de juin, relativement limitées. Mais c'est un gros point d'interrogation quand même.
Mais tout cela, Sébastien, ajoute évidemment à cette espèce de chaos où franchement, même les thuriféraires habituels au sein de l'administration, les lutniks, etc., on ne les entend plus. Bessent, ministre des Finances, on ne l'entend plus. Donc, où en est cette nomenclature, en quelque sorte, des droits de douane?
On a l'impression, effectivement, d'une situation dont le caractère chaotique ne s'estompe pas. Et d'ailleurs, je crois que c'est un premier élément à souligner. Dans la politique commerciale et politique économique de Trump, l'incertitude n'est pas un inconvénient. C'est une caractéristique structurelle, volontairement entretenue. Volontairement entretenue, je pense, pour les droits de douane, notamment parce qu'ils pensent que ça renforce leur caractère protectionniste et aussi parce que ça renforce sa main, de son point de vue, par rapport à ses partenaires. Sauf que dans le cas présent, il l'a subi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de d'assez nouveau. Alors, où est-ce qu'on en est concrètement? La situation est ubuesque au point que Donald Trump a annoncé qu'il utilisait une autre loi, donc la section 122 de la loi de 1974, pour mettre des droits de douane de 10%, vendredi dernier. Samedi ou dimanche, je ne sais plus, il a dit non, je les mets à 15%. Et lundi, il publie la loi et c'est 10%. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un responsable américain la semaine. Je peux vous dire que c'est eux-mêmes, et déjà, on les félicite de leur courage d'arriver à dire quelque chose, et ils disent, je peux juste parler de nos intentions. Ils eux-mêmes ont l'air perdus. Donc, voilà. Donc, en fait, dans la protection américaine aujourd'hui, on a des droits sectoriels, qui sont à 25 ou 50%, qui concernent des secteurs bien précis,
l'acier, l'aluminium,
l'automobile aussi, entre 25 et 50%. Ceux-là ne sont pas impactés. C'est le reste qui est impacté, qui sont des droits transversaux, si vous voulez, qui étaient variables par pays, qui étaient très maniables. Pour Trump, c'était très commode. Donc là, il perd un outil qui est irremplaçable dans sa maniabilité, mais qui est il peut quand même bricoler avec d'autres choses pour faire quelque chose d'un peu équivalent, mais ça sera pas aussi souple, ça sera pas exactement le même périmètre, ça sera pas aussi facile de maniement. Et donc là, il a, pour l'instant, ce qu'ils appliquent, c'est 10% sur tous les autres produits. Donc, voilà, le remplacement est pour le coup uniforme, alors que ce qui était en place était assez varié, notamment entre partenaires.
Anne Desine, le président américain était véritablement très choqué que la Cour suprême ait osé enfin lui dire non à quoi que ce soit. Enfin, en l'occurrence, 6 juges contre 3 qui ont donc déclaré il y a une dizaine de jours que l'invocation d'une loi d'exception, d'une loi d'urgence, était illégale. Depuis ce matin, on voit ce président qui se lance à nouveau dans une opération militaire. En principe, la Constitution exige l'approbation du Congrès.
Oui, il y a deux aspects. Sur l'aspect commerce international, moi, ce qui me frappe, c'est la disparition de l'OMC.
Attendez, avant de parler du commerce, d'accord, parlons de cette guerre.
Alors, oui, sur le principe,
qui est en cours, hein,
il y a une résolution.
Qui est en cours, frappe contre l'Iran, suspension de nombreux vols de plusieurs compagnies aériennes européennes vers Israël et plusieurs pays du Moyen-Orient. Et Trump annonce une opération majeure, je le cite, et appelle à un renversement du pouvoir. Donc, c'est une opération importante, et là encore, le président enjambe la constitution de son pays.
Oui, Nixon avait déjà essayé, et durant la guerre du Vietnam, beaucoup de présidents avaient envoyé des troupes, procédé à des frappes sans l'aval du Congrès. Donc le Congrès avait tenté de limiter les dégâts, si j'ose dire, et voter ce qu'on appelle la War Power Resolution, donc une loi qui explique comment le président, même s'il envoie des troupes, doit immédiatement prévenir le Congrès a posteriori, et surtout le Congrès doit valider a posteriori, après un certain délai, sinon le président doit retirer les troupes. Mais là, nous n'avons pas le cas de figure des premières frappes sur l'Iran, où c'était ponctuel, chirurgical. Là, les mots employés sont opérations d'envergure, et tout d'un coup, alors qu'on ne savait pas très bien quels étaient ses objectifs, alors c'était le nucléaire, c'était les missiles, c'était peut-être aider au changement de régime, tout d'un coup, il ressort le changement de régime, qui est totalement opposé à ses promesses électorales et à ce que souhaite une partie de sa base. C'est-à-dire que là, on revient presque à la période du néoconservatisme et de ceux qui voulaient le renversement de l'Irak de façon à installer
une démocratie. Et donc, que devient encore une fois la Constitution ? Et comment se fait-il que le Congrès, même le Parti démocrate, qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, le Parti démocrate est minoritaire. Dans le système américain, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de moyens de faire quoi que ce soit. Donc, certains démocrates ont proposé un texte, donc une proposition de loi qui viserait à encadrer davantage les pouvoirs du président. Et les républicains refusent de voter ce texte. Et lorsqu'on leur pose des questions, lorsque les journalistes et de ça, ils expliquent, vous pensez, on ne peut pas téléguider, ces frappes, c'est très important, il faut profiter de les effets de surprise, donc on ne peut pas priver le président de cet atout considérable, et par conséquent, ils refusent de voter le texte.
Ils refusent de voter le texte, mais on a vu que Donald Trump, qui est agile, a utilisé, après donc la rebuffade que lui impose la Cour suprême sur les droits de douane, il utilise une autre loi d'exception, en fait, cette loi sur le commerce qui date de 1974, mais qui ne peut être invoquée que s'il y a un problème de balance des paiements. Il n'y a pas de problème de balance des paiements. Et néanmoins, Anne, c'est en fonction de cette loi que la Maison-Blanche agit sur le plan commercial maintenant.
Alors effectivement, Trump a été très fâché, euphémisme, de la décision de la Cour suprême. Et d'ailleurs, dans ses premières allocutions, il a utilisé des mots très durs en disant qu'ils étaient à la solde de l'étranger, y compris les juges que lui-même avait notés. Au discours à l'État de l'Union, je me demandais s'il allait les insulter en direct. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a simplement 4 d'entre eux qui sont venus, donc 5 ont boycotté le discours de l'État de l'Union. Ils étaient au premier rang et l'une d'entre elles, courageuse, donc la juge nommée par Trump, Barrett, était là, elle souriait.
Alors qu'elle avait voté contre lui.
Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on savait que la Cour suprême statuerait de cette façon. Sinon, elle se déjugeait complètement, elle perdait toute sa crédibilité. Donc, la Cour a dit... Le président ne peut pas utiliser cette loi parce que la loi prévoit que le président peut, en cas d'urgence économique, c'est le mot dans la loi, emergency economic powers, réglementer, imposer des embargos, etc. Mais dans la longue loi, il n'y a nulle part le mot droit de douane. Donc le président n'a pas le droit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour n'a pas abordé la vraie question. Y avait-il une urgence ? Or, il n'y avait pas d'urgence puisque les États-Unis sont en déficit commercial depuis des dizaines d'années.
Donc en fait, un arrêt qui a l'air brutal, mais qui reste un peu en arrière de la main, d'une certaine manière.
Tout à fait. Lorsqu'il y a des titres partout en disant « c'est un revers », etc. Non, non. La Cour suprême a fait le minimum syndical pour ne pas perdre toute légitimité. Donc a dit « on ne peut pas interpréter la loi » et pas de cette façon. Donc le président, ça c'est intéressant, il savait qu'il allait perdre. C'est pour ça qu'il a pu sortir de sa main tout de suite la section 122. Mais il perd un instrument très important qui est ce que j'appelle l'extorsion-corruption. C'est-à-dire, il dit à un pays...
Grande spécialité familiale.
Donc, par exemple, la Suisse avait fait je ne sais pas quoi de bien, immédiatement elle hérite de droits de douane considérables. Les Suisses qui ont compris comment cela marche déboulent à la Maison-Blanche avec des lingots d'or et une belle montre. Et le lendemain, Trump baisse les droits de douane. Donc ce système d'extorsion-corruption, c'est fini. Cela étant, les proches de... J'espère qu'on va en parler. Les proches de Trump ont compris qu'ils pouvaient trouver la corruption dans d'autres mécanismes. Alors, 122, le gros problème, c'est que... alors, il perd ce système d'extorsion, mais surtout, c'est 150 jours. Cela veut dire que dans 150 jours, en théorie,
Donc,
fin juillet, c'est-à-dire 3 mois avant les élections, demi-mandat. Donc, il faudrait que les élus républicains votent la prorogation de droits de douane dont ils savent pertinemment que 65% des Américains, dont leurs électeurs, ne veulent pas, parce que les électeurs ne sont pas idiots. Trump, pendant tout le discours sur l'État d'Union, en dit « tout va bien, vous avez vu, ouais, le chômage, la croissance, etc. » Mais eux, ils savent très bien, et quand on va aux États-Unis, on le sent, que la pizza a été le prix a été multiplié par 4, etc. Et il a menti sur le prix de l'essence, il a menti sur tout. Donc là, c'est compliqué, parce que soit il va devoir violer la loi à nouveau, en disant bah, « ça ne fait rien, je proroge », ou bien se tourner vers une autre loi, la section 301 par exemple, parce que les années 70, le Congrès avait donné tout un tas de pouvoirs au président. Soit continuer en violation de tout.
En violation de tout, Elvire Fabry. Et nous, on en est où? Nous autres Européens, donc on avait beaucoup critiqué, surtout à Paris, les accords conclus dans un golf écossais entre Madame von der Leyen et Donald Trump, c'était l'été dernier. Et là, on voit, en fait, le chancelier, peut-être que cette visite de Merz mardi prochain va être décalée à cause des événements d'Iran. Néanmoins, on a l'impression que, voilà, Bruxelles ne sait pas comment réagir. Est-ce qu'on est traité à 10%? Est-ce qu'on est traité à 15%? Comme l'expliquait Sébastien Jean, il y a des secteurs qui, eux, sont encore sous un régime différent et qui sont très importants pour nos économies. Où en est-on ce matin?
Mais à vrai dire, on ne sait pas encore très bien, puisque comme le disait Sébastien, ça n'est pas encore stabilisé à 10%, parce qu'on entend le représentant au commerce, Greer, évoquer le fait de pouvoir imposer du 15% à la carte sur certains
pays. Selon l'humeur du matin
ou... Alors que l'instrument lui-même ne le permet pas, en fait. Déjà, c'est un instrument qui impose un droit de douane horizontal pour tous les pays. Mais le simple fait qu'il évoque déjà le fait de pouvoir imposer 15% sur certains pays, voire plus, voire éventuellement élever plus, on revient à cette logique de volatilité des droits de douane en fonction de l'humeur du président. Ça reste un levier que le président peut activer d'un jour à l'autre. Cela montre une chose, c'est qu'en fait, on a affaire à un Donald Trump qui est en train de jouer à saute-mouton entre les différents instruments juridiques, en essayant d'activer le plus rapidement possible des instruments alternatifs, le temps de ne pas être rattrapé par toutes les procédures judiciaires. Parce que fondamentalement, le premier instrument qu'il a utilisé depuis le printemps dernier, à IEPA, qu'on vient d'évoquer, il savait très bien qu'il n'avait pas la légitimité pour l'utiliser. Et là, lorsqu'il le repousse, même encore, il vient d'annoncer qu'il demande au Congrès de pouvoir repousser les démarches pour commencer à enclencher le remboursement des droits de douane, c'est aussi pour gagner du temps. Le temps de pouvoir non seulement à mettre en place ces nouveaux droits de douane, mais aussi de pouvoir utiliser des instruments alternatifs comme l'instrument 301 qui est invoqué au nom de pratiques commerciales illégales et qui va lui permettre de cibler de manière très féroce un certain nombre de pays tiers, parce que ça lui permettra là justement de jouer sur des niveaux de droits de douane. Une fois qu'une enquête conclut qu'il y a un problème de distorsion commerciale, et on voit bien un peu la marge de manœuvre que ça va lui donner, il pourra imposer des droits de douane très élevés. Ce sont des procédures qui normalement durent 12 mois, dont il a demandé à ce qu'elles soient raccourcies, et donc ça pourrait tomber en fait dans le délai avant cette échéance de fin juillet. Donc tout ça pour dire qu'on est sur un terrain très instable, que pour les Européens, il y a un enjeu qui est de savoir est-ce qu'on est encore soumis à 10%, et auquel cas ça reste intéressant pour nous, parce que finalement on est sous le seuil des engagements de l'accord de Tolmin.
Oui, on est juste en dessous.
Qui était donc avec un plafond de 15%. Ou alors, est-ce qu'on est exposé à un 15% qui vient en plus des droits de douane, la nation la plus favorisée, et auquel cas, on est déjà cuisiné à des droits de douane qui sont plus élevés. Donc, est-ce que l'on va jusqu'au bout de la procédure de ratification de cet accord?
Qui a été gelé par le Parlement européen, fort heureusement.
Exactement. C'est-à-dire que le Parlement européen, qui doit encore voter cet accord, pour le moment, a pris une posture de prudence en disant on va quand même pas ratifier un accord qui risquerait de nous exposer à faire des concessions supplémentaires, en fait. On prend des engagements où on ouvre encore plus notre marché pour tous les produits industriels, et alors que les États-Unis eux-mêmes ne respecteraient pas cet accord. Donc on a un Parlement européen qui joue un peu le bad cop, la mesure de la prudence, et une Commission européenne qui est poussée à éventuellement respecter cet accord, parce qu'il y a des exemptions très intéressantes pour un certain nombre d'accords de secteur.
Mais François Schmitt, encore une fois, la confusion règne, et il semblerait que, même à Washington, le négociateur en charge du commerce, donc Jamieson Greer, a pris l'initiative, lui, d'appeler Bruxelles. Pour dire en gros, on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire, mais c'est le monde à l'envers.
C'est le monde trumpien dans lequel nous vivons maintenant depuis notre Trump, on va dire Unchained, dans lequel nous vivons maintenant depuis un peu plus d'un an. Et en effet, je pense qu'il faut souligner que l'instabilité est faite loi. Ce qu'il veut, c'est avoir un maximum de leviers pour pouvoir négocier. C'est comme ça qu'il voit le monde. Pour avoir un maximum de leviers, il estime que l'incertitude autour de la trajectoire de la politique américaine constitue ses marges d'activation et donc de négociation vis-à-vis d'un certain nombre, même presque de l'ensemble des partenaires mondiaux. Peut-être tempérer un tout petit peu l'incidence que cela a sur nous, Européens. La réalité est que les droits de douane qu'on avait évoqués en contrepartie abaissés en matière industrielle de notre côté sont extrêmement faibles. Donc l'incidence de cela est assez secondaire. Qu'on opère ces levées de droits ou qu'on ne les opère pas, la différence pour nos économies est assez nulle. Et qu'on soit traité à 14 et quelques ou à 10, là aussi, étant donné l'ampleur du choc que nous avons déjà encaissé en matière tarifaire, les marges restent marginal, je pense.
Oui, mais enfin, pour les entrepreneurs dans des secteurs précis, prenons le vin, par exemple. Comment on fait? On ne sait pas, enfin, d'après ce qu'on peut lire, en tout cas, les gros négociants qui exportent vers le marché américain, en fait.
La question qui va se poser, c'est jusque-là, il avait bénéficié de l'attractivité incroyable de l'économie américaine. Où, malgré l'incertitude, les acteurs étrangers désirer rester presque coûte que coûte sur le marché américain et donc ignorer ou en tout cas prenez en compte cette incertitude mais ne modifiez pas leurs décisions d'investissement, de tentative d'aller démarcher sur le marché américain. Il risque d'arriver un moment où des questions vont se poser. Jusqu'où peut-il tirer sur la corde de l'incertitude sans affecter la crédibilité et donc la trajectoire économique des États-Unis? Cela, la question va se poser pour une économie qui a besoin d'un tel niveau de financement extérieur pour pouvoir financer ses déficits structurels, qui eux ont assez peu évolué depuis Trump. Cela pose de très sérieuses questions sur la stabilité financière des États-Unis et a fortiori presque de la planète. Nous n'y sommes pas encore.
Oui, et sur le dollar.
Jusqu'où ce jeu peut-il être mené sans que, en gros, la centralité et la crédibilité du dollar dans le système monétaire international soient plus fortement érodées? Les questions vont se poser potentiellement assez rapidement. Cela étant dit, avec les perspectives, et on l'a déjà vu par le passé, avec les perspectives électorales qu'il a face à lui, il est assez probable que, comme par le passé, Trump, on va dire, ce que les Américains disent, fasse la poule mouillée, chickens out, face à des difficultés financières. Et les mouvements qu'on voit actuellement, enfin la guerre qu'il a donc annoncée vis-à-vis de l'Iran, elle n'est pas par hasard annoncée un week-end, c'est le moment où les marchés financiers sont fermés. La question va se poser de combien de temps va-t-il pouvoir faire durer cela avec des marchés financiers actifs. Ce qu'on a vu par exemple sur le Groenland, Trump a cette capacité à faire oublier ses redditions. Sur le Groenland, il a tenté, les marchés ont bougé, il a reculé. Ça avait été un peu la même chose sur la première initiative des tarifs réciproques au titre du Liberation Day de l'année dernière. Et là aussi, la question aussi va être posée de savoir, dans la durée, va-t-il être résilient vis-à-vis des conséquences économiques de la volatilité qu'il engendre dans la conduite de politiques commerciales ou internationales qui sont extrêmement aventureuses.
Sébastien Jean, d'autant plus aventureuse qu'en fait, depuis un peu plus d'un an, donc enfin un peu moins d'un an, depuis le 2 avril, on se souvient de Donald Trump avec une espèce de pancarte à l'ancienne où il y avait la liste de tous les pays par ordre alphabétique, y compris une île où il n'y a que des pingouins, mais qui était taxé à 40%. En fait, l'effet sur l'économie américaine n'a pas été celui espéré par son administration. La dette publique continue d'augmenter, le déficit commercial a continué de s'aggraver.
Oui, comme j'allais dire, tous les économistes sérieux disaient depuis le départ que un droit de douane, ça ne permet pas d'agir significativement sur le déficit commercial. On en a déjà eu l'illustration lors du premier mandat de Trump avec la première guerre commerciale qui était certes moins généralisée, mais qui n'a pas empêché le déficit commercial américain de continuer à dériver. Là, ce qui s'est passé l'an dernier, en fait, on n'est pas en régime de croisière. C'est difficile de tirer une leçon sur la suite. Pourquoi ? Parce que à l'annonce de ces droits de douane, il y a eu énormément d'anticipation d'achats et d'importations. Donc, quand on regarde le déficit commercial américain, il a énormément plongé au début, au premier semestre, puis après, il s'est modéré. Est-ce qu'il s'est modéré parce que les importations avaient été anticipées, donc il n'y avait plus besoin de les faire ? Est-ce que c'est quelque chose de plus stable ? On le verra plus tard. Mais d'une façon générale, il y a un déficit commercial, mais en fait, ça n'est que la contrepartie du fait qu'on a une économie américaine dans laquelle on dépense plus qu'on ne gagne, ou on investit plus qu'on épargne. Les Américains épargnent très peu. Donc ça, c'est une cause macroéconomique profonde. À partir du moment où on n'agit pas sur cette cause, il n'y a pas de raison qu'on efface ces effets. Donc, il y a une sorte d'obstacle profond, je dirais, à ces politiques.
Anne-Désine, L'un des arguments invoqués par le juge Kavanaugh, qui a donc, faisait partie donc des trois juges qui ont défendu jusqu'au bout l'administration Trump. Il disait, ça va être le chaos, parce qu'il va y avoir des procédures de remboursement exigées tantôt par des États américains, tantôt par des entreprises. Donc ce remboursement, est-ce qu'il peut avoir lieu ? Il y a déjà, je crois, un bon millier, un peu plus, 1900 plaintes qui ont été déposées.
Alors, Kavanaugh, effectivement, est l'un des juges nommés par Trump et il fait partie de ceux qui trouvaient que c'était tout à fait normal que le président se serve de cette loi d'urgence pour imposer des... Mais dans sa longue opinion, dissidente donc, il explique, mais quand même, et c'est vrai, la Cour ne dit rien sur le remboursement. Donc... Ouais. Et Trump a immédiatement dit, ben moi je ne veux pas procéder au remboursement. C'est-à-dire que lui, ce qu'il est prêt à faire, le cas échéant, c'est prendre l'argent des quelques 175 milliards de dollars qui ont été collectés au titre des droits de douane pour envoyer des chèques aux électeurs juste avant les élections. Un petit peu de corruption là encore. Donc il y a deux possibilités. Dans un monde normal, il y aurait un processus administratif mis en place par le bureau des douanes, Customs and Border. Trump a dit n'en est pas question, donc le seul recours, c'est le contentieux devant la justice. Alors, a priori, c'est la Cour du commerce international, celle qui avait statué en première instance en disant que les droits en vertu de la loi IEPA n'étaient pas constitutionnels ni légaux. Donc, cette Court of International Trade qui reçoit les demandes.
Là, ce sont trois juges. Il y en a un qui avait été nommé, je crois, par Reagan, un par Trump 1. Et un autre par Obama, je crois. Donc, mais oui. Trois juges qui sont au calme. Et là, tout à coup, il y a une avalanche phénoménale de dossiers qui vont leur tomber dessus.
Et ils n'ont pas les ressources humaines ni administratives pour gérer tout cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un certain nombre d'officines qui se chargent d'aider les entreprises à mener leurs recours. Et un ancien Solicitor General, donc l'avocat de l'administration devant la Cour suprême d'Obama, Neil Katyal, qui a décidé de prendre les choses en main pour aider les entreprises. Mais en fait, alors effectivement, dans les recours, on a à la fois des entreprises...
Comme
alors,
FedEx, par
alors,
exemple.
FedEx est... Je crois que c'était les premiers, mais c'est pas sûr. Il y a beaucoup d'entreprises de logistique, ce qui est normal parce qu'ils ont bien sûr supporté une grande part des droits de douane. Il y a une entreprise française, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai vu L'Oréal dans la liste. Et puis, il y a beaucoup de grandes distributions comme Costco, mais aussi des petites entreprises, aussi des collectivités locales. Et également des États. Il faut se rappeler que le lendemain de la décision rendue par la Cour suprême, le gouverneur de l'Illinois a envoyé une lettre à Trump en disant « Voilà ce que vos droits de douane nous ont coûté à nous, les citoyens, les habitants, les entreprises, les collectivités, etc. » Et la facture était de 8,4 milliards de dollars avec soit vous remboursez, soit nous intentons une action en justice. Donc tous ces gens sont devant la Cour. Cela va prendre longtemps et ils se précipitent parce que il y a les délais de prescription qui peuvent jouer. durée. C'est 2 ans à partir de la date, a priori, de l'entrée en vigueur des fameux Liberation Day tariffs, donc des droits de douane de libération. Et puis, il y a le fait que si les droits de douane ont déjà été perçus, ce qu'on appelle liquidation, ce sera plus difficile pour les entreprises de récupérer leur argent. Donc il y a une sorte de précipitation pour faire vite, vite, parce que la plupart ne croient pas qu'il y aura un processus administratif géré de façon civilisée, compte tenu de l'opposition de l'administration Trump.
Elvire Fabry, dans le système européen, la politique commerciale est une politique commune. Néanmoins, j'imagine que chaque État membre est en quelque sorte obligé, dans une telle confusion, de donner quelques conseils aux entreprises. Comment agir ? Est-ce qu'elles ont intérêt, encore une fois, à se joindre au bataillon d'entreprises américaines qui vont tenter d'obtenir des remboursements ? Comment se joue, en fait, le rôle plus précisément de la Commission par rapport aux gouvernements nationaux dans, encore une fois, un tel chaos commercial?
Alors, là, vous évoquiez L'Oréal, mais ce sont quand même largement les entreprises américaines et les consommateurs américains qui, en fait, assument ce coût des droits de douane.
Oui, mais j'imagine qu'il y a des entreprises françaises, par exemple, qui vont dire ben, « Nous aussi, on a subi les conséquences de cet système illégal, et donc allons-y, essayons d'obtenir compensation. »
Alors, ce qui est intéressant déjà dans le jugement de la Cour suprême, c'est que elle qualifiait en fait ces droits de douane de taxes, d'impôts. Montrant donc ça, oui. Ça n'est pas un droit de douane en tant que tel, c'est véritablement une taxe. Et ça faisait écho aux dernières estimations qui ont été publiées à la fois par des économistes, l'Institut Kiel en Europe, mais aussi la Réserve fédérale de New York, montrant que entre 90 et 96% du coût de ces droits de douane étaient portés, donc assumés par les entreprises américaines et donc les consommateurs américains. C'est pour ça qu'on n'est pas tellement concerné du côté européen par toutes ces procédures de remboursement éventuel, ou alors par des entreprises qui ont en fait des sites, enfin qui ont des filiales aux États-Unis et qui à ce moment-là elles-mêmes importaient des composants, des produits. Mais les exportateurs européens ont répercuté en fait cette hausse de droits de douane sur les importateurs américains. Alors maintenant, pour ce qui est de la compétence de la politique commerciale de l'Union européenne, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de conformité, respect des engagements de l'accord de Tonbury. Il faut anticiper ce qui va venir. C'est-à-dire que pour le moment, les entreprises européennes doivent essayer de s'y retrouver dans ce brouillard et surtout cette volatilité de droits de douane. Mais il faut surtout essayer d'anticiper ce qui va venir, les offensives futures qui vont arriver. Et c'est là où la stratégie de la Commission européenne est importante. Parce que selon que l'on se conforme ou pas à cet accord ou que l'on s'expose à des mesures de rétorsion encore plus fortes, ce qui s'annonce, c'est quand même tout ce qui concerne les enquêtes en question menées par l'instrument 232 ou 301, je passe les détails, mais qui là vont toucher des secteurs économiques très spécifiques. En l'occurrence, on pense au secteur de la pharmacie, qui pour le moment est exempté de droits.
Mais là, l'administration Trump prépare ou annonce, évidemment, et toujours dans la perspective des élections de mi-mandat, des réformes pour casser le prix des médicaments, qui, c'est un fait, est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe et singulièrement en France.
Absolument, mais ça tient au modèle américain. Simplement, il veut finalement remettre ou réformer ce système en imposant aux partenaires commerciaux de changer leur propre politique qui, là, touche nos préférences collectives, des choix démocratiques, nos systèmes de santé, en nous forçant à augmenter le prix des médicaments en Europe, en estimant que finalement les entreprises pharmaceutiques européennes se financent leur recherche et leur développement en ayant accès au marché américain. Donc il faut se préparer à ce type de mesures qui peuvent remettre en cause les engagements actuels, alors que n'oublions pas que là on est concentré sur les États-Unis, mais qu'on a un sérieux problème de l'autre côté, qui est celui de la concurrence chinoise.
Bien sûr.
Et que, avec des secteurs industriels qui sont très exposés à cette concurrence chinoise, et des dépendances très fortes à la Chine, y compris dans le secteur pharmaceutique, avec des composants dont pour lesquels on est dépendant à 90% d'importation chinoise, et qu'on risque d'avoir des coïncidences de mesures de coercition économique, parce qu'on est bien sur de la coercition économique, on est bien au-delà de rééquilibrages commerciaux, si ça touchait ce secteur de la pharmacie, et on risque d'être exposé à des mesures de coercition concomitantes, simultanées des deux côtés. Donc il ne s'agit pas simplement de s'adapter aux contraintes actuelles, mais d'anticiper et de se préparer à une stratégie de résilience qui peut venir très vite dans les mois qui viennent.
Mais se préparer, alors déjà le mot résilience, comment dire,
qu'est-ce que
c'est jamais bon signe d'une certaine manière. Donc François Schmitz, est-ce qu'on peut imaginer que depuis ces accords commerciaux, encore une fois de l'été dernier, les Européens ont pris en compte cette double exposition au danger, américain évidemment d'un côté, chinois de l'autre, et qu'on a fait quelques progrès s'agissant de l'amélioration de la compétitivité, toutes les dimensions qui sont très importantes pour cette économie européenne qui est à la fois très puissante et en quelque sorte paralysée.
Je suis très content que Mme Fabry ait évoqué quand même l'élément qui quand même cadre l'évolution du monde depuis quelque temps, qui est quand même l'arrivée d'une Chine qui est, d'un point de vue techno-industriel, une superpuissance, avec un bond comme on n'a jamais connu en termes de croissance des exportations industrielles et de part des exportations industrielles mondiales sur les 5 dernières années, qui s'accompagne aussi de progrès technologiques et en matière d'innovation sans précédent. L'image un peu éculée, mais qui je trouve est très vraie, c'est que si Trump est une tempête, la Chine est le changement climatique. Et donc face à cela...
Nié par Trump, évidemment. Ce qui arrange
notre... mais même la politique chinoise de l'administration Trump 2 est assez particulière. Mais il ne faut pas non plus que nous soyons tous, et je parle des décideurs, des médias, de l'ensemble de la société, pris dans les phares de ce cirque médiatique organisé par M. Trump pour en permanence se saisir de l'attention du monde et oublier un autre acteur qui lui est très heureux de se faire oublier, qui est donc la montée en puissance de la Chine à cet égard. La réponse des Européens aux tensions, enfin à l'attaque commerciale sous Trump 2 avait été celle de grosso modo faire le dos rond, en disant nous sommes en position de faiblesse, nous avons besoin des États-Unis pour des raisons de sécurité et de défense, et donc nous concédons un certain nombre de choses à cette nouvelle administration pour essayer de nous concentrer sur la réduction de nos dépendances et sur le renforcement de notre économie. Force est de constater que sur beaucoup des pans de cette nécessaire effort de renforcement de nos capacités économiques et géopolitiques, la machine européenne est assez grippée. Alors, il y a eu des avancées, il faut quand même le relever. On a noté une inflexion très significative vers des efforts de simplification de notre appareil réglementaire européen, notamment en matière digitale et environnementale. Il y a eu une accélération très nette de notre ambition de diversification de nos partenariats, avec bien évidemment en France un accord que nous connaissons que trop bien, l'accord Mercosur, mais plus au-delà.
Alors, l'accord Mercosur, disons juste un mot, puisque la Commission européenne a annoncé hier que cet accord serait appliqué immédiatement, sans attendre la ratification du Parlement européen.
Oui.
Donc, évidemment, coup de colère du président français qui dit « c'est une mauvaise manière, c'est pas bien, etc. » Mais cet accord est appliqué.
Alors, la Commission européenne, ce faisant, applique d'une part les marges qui sont prévues par les traités et surtout la demande qui est venue des États membres. Comme la politique commerciale est une
compétence...
À la majorité qualifiée. Et pour la première fois presque de l'histoire, depuis les derniers changements de traité il y a une vingtaine d'années, pour la première fois, la France a été mise en minorité. Il faut savoir que cela est une anomalie française. Nos camarades allemands ont été mis en minorité plus d'une quarantaine de fois. Nos camarades britanniques, avant de partir, plus de 80 fois. La France, c'était presque la première fois. Il y a eu des précédents complètement marginaux sur des sujets assez subalternes. Et en effet... cette décision qui a été prise par l'ensemble des Européens à la majorité qualifiée avec donc l'opposition française, portait aussi sur la possibilité d'appliquer temporairement l'accord. sans même l'aval du Parlement, qui entre-temps, lui, a demandé un renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne sur certains éléments qu'elle pouvait juger contraires au traité. Les éléments en question paraissent quand même... il existe des précédents et cette saisine paraît plus politique que fondée juridiquement. Il n'empêche, la Commission a décidé, et il en va, il faut dire, en partie de la crédibilité d'une Union européenne qui peut réagir de manière agile, forte et puissante dans ce nouveau monde, d'appliquer rapidement cet accord, comme d'ailleurs nous le demandent nos partenaires d'Amérique du Sud. Forcément, cela crée un émoi français, et cela crée un émoi légitime démocratiquement, puisque le Parlement européen, qui est quand même garant de la représentativité démocratique de nos institutions européennes, n'a pas été saisi. Mais pour revenir au fil initial, on a accéléré sur diversifier, et là où on cale complètement, c'est sur les deux autres grands pans de notre réaction, qui est d'une part le soutien à nos industries stratégiques et à notre industrie, les plans d'investissement notamment demandés par le rapport Draghi, et sur un renforcement de nos coopérations, faire plus en commun pour pouvoir justement répondre de manière plus puissante à ce nouveau monde plus brutal qui s'attaque à nos intérêts. Et là-dessus, on a vu maintenant le plan industriel de l'Union européenne qui doit être proposé par la Commission.
Avec la notion de préférence européenne.
Avec enfin la notion de préférence européenne, si chère et demandée de si longue date par l'opinion publique et par les autorités françaises, qui est en plus portée par un commissaire français, qui en effet représente une vraie révolution de doctrine pour l'Union européenne. Avoir une obligation d'acheter européen pour l'ensemble des Européens sur un certain nombre de secteurs stratégiques, cela est une petite révolution. Cela, hélas, a donné lieu à déjà 4 reports un peu au dernier moment qui envoient un signal assez clair que les Européens, quand bien même il y a une volonté d'unité et un relatif consensus sur l'état des menaces auxquelles nous faisons face, ont une vraie difficulté à faire émerger une lecture commune de ce que nous devons faire. La France sur le commerce l'illustre assez bien. Nous sommes extrêmement majoritaires, l'Espagne, mais même un certain nombre d'acteurs du Parlement européen, notamment le chef du comité sur le commerce, qui est un Allemand, mais d'obédience de centre-gauche, social-démocrate, a dit qu'il était tout à fait favorable à une mise en œuvre assez rapide de l'accord. Et là-dessus, ce que cela illustre, c'est que les Européens, pour le moment, peinent à faire émerger une nouvelle doctrine commune de réaction à un monde qui, hélas, ne ressemble plus au monde d'avant dans lequel ils étaient assez heureux, parce que ce monde-là représentait assez largement une extension de l'esprit de la construction européenne.
Elvire Fabry, il y a donc cette idée qui avait été lancé par Enrico Letta, donc il y a eu ces deux rapports qui nous disent ce qu'il faut faire, deux Italiens, Letta d'un côté, Draghi de l'autre, et donc cette idée du 28e statut qui semble quand même avancer un tout petit peu. En quoi est-ce que cela consiste ?
Alors, il y a pas longtemps, les chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés dans ce qu'on appelait une retraite. Et Enrico Letta et Mario Draghi étaient présents, ont remis sur la table, si je puis dire,
oui, et près de Maastricht, en plus, enfin, à la frontière belgo-néerlandaise, qui était évidemment historiquement intéressant.
Oui, absolument, c'est plus que symbolique, mais qui ont remis sur la table leur rapport. Évidemment, on les a entendus déjà ces derniers temps dire « mais les Européens ne vont pas assez vite ». Ces deux rapports ont été salués, ils visent un approfondissement du marché unique, rapide, mais finalement les progrès ne sont pas là, le Conseil n'est pas assez engagé. Et donc, une des propositions du rapport d'Enrico Letta, le 28e statut, c'est en effet l'idée qu'il faut harmoniser ce marché unique. On est encore très loin d'un marché finalement homogène. Et la première chose à faire, c'est permettre aux entreprises d'avoir un statut unifié. Alors au début, c'était un statut juridique pour s'implanter sur un des marchés des États membres. Au début, cela visait essentiellement les start-up pour qu'elles puissent se développer plus rapidement sur l'ensemble du marché européen. Maintenant, ce qui est évoqué, ce serait de pouvoir permettre finalement de rendre accessible ce 28e statut à des entreprises beaucoup plus importantes, de toute taille. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, le cap qui est donné par cette dernière discussion à 27, ce serait non pas de se donner une échéance d'un temps long d'approfondissement du marché unique tel qu'on l'aurait imaginé encore il y a quelques années, sur 5 ou 10 ans, mais de se dire, on a une échéance courte, sur 3 ans, il faut que l'on ait fait des progrès significatifs. Ce 28e statut en fait partie. Mais il y a aussi l'idée de parvenir à se donner des moyens d'investissement beaucoup plus importants en allant chercher l'épargne privée et donc en créant cette fameuse union des marchés de capitaux. C'est à l'union qu'on appelle maintenant de l'épargne et de l'investissement. Techniquement, on voit bien qu'il y a ça n'est pas facile, que ça pourrait prendre du temps. Maintenant, il faut que ce soit une priorité, une urgence. Il faut que se donne des moyens pour investir dans tous les secteurs d'innovation pour lesquels les investissements initiaux sont très très importants. Et on voit bien que la France récemment a proposé notamment aux Allemands, puisqu'on sait que l'opposition vient surtout de l'Allemagne, de créer des Eurobonds qui soient ad hoc, donc qui permettent d'investir dans des secteurs technologiques précis. Ça ne viendrait pas.
Oui, mais enfin, honnêtement, la France est très très mal placée. Étant donné, hélas, nos propres difficultés budgétaires, pour demander aux partenaires, qu'ils soient allemands ou néerlandais en particulier, donc les frugaux traditionnels, de financer des eurobonds que nous ne pouvons pas financer.
Absolument, la crédibilité française actuellement est au plus bas. Et l'espèce d'inertie d'absence totale de réformes structurelles dans laquelle on est plongé pour encore un certain temps ne nous donne pas de crédibilité sur la scène européenne, encore moins quand on se retrouve dans un corner comme celui de l'opposition au Mercosur, alors que le reste de l'Europe attend la mise en œuvre de cet accord de manière plus décisive. Donc c'est vrai que là on est sur ces enjeux d'investissement, on n'est pas dans une position de leadership qu'on aurait pu jouer de manière plus évidente il y a quelques mois. En revanche, encore une fois, sur ces enjeux d'approfondissement du marché unique, aujourd'hui c'est une priorité pour les Européens pour compenser le coût que l'on doit assumer à la fois sous l'impact des droits de douane de Donald Trump, mais aussi pour se redonner des capacités d'innovation et faire face à la concurrence chinoise. Parce que c'est aujourd'hui la priorité, c'est véritablement de refaire de l'Europe un hub d'innovation telle que la Chine elle-même est parvenue à le faire. Parce que cet avantage comparatif va donner à la Chine une force de concurrence réelle et très rapide dans les années qui viennent.
François Schmitt, avec cette ironie absolue, c'est que encore une fois, les nouvelles manœuvres tarifaires, pour parler franglais, de l'administration Trump 2, font en sorte que la Chine, qui avait gagné le bras de fer en utilisant les terres rares comme levier il y a quelques mois, eh bien les droits de douane américains infligés à la Chine baissent de 7 points et Donald Trump se réjouit d'aller voir son grand ami Xi Jinping à Pékin fin mars.
Il n'existe tout simplement pour le moment aucune clarté stratégique quant à la vision de l'administration Trump vis-à-vis du pouvoir à Pékin. On voit coexister des visions extrêmement différentes avec, pour décisionnaire ultime, quelqu'un qui semble principalement intéressé par l'idée de faire un deal, ce qui contrevient d'ailleurs à un certain nombre des visions sous-jacentes, beaucoup plus conflictuelles, qui peuvent exister à Washington et qui d'ailleurs font assez largement consensus entre les deux parties.
Et d'ailleurs, bizarrement, pardon François, je vous interromps, dans ce discours sur l'état de l'Union, donc mardi dernier, le mot Chine n'a pas été prononcé, alors que c'est l'obsession commune du Congrès, côté républicain comme du côté démocrate.
Il y a là un vrai hiatus, une vraie incohérence qui est extrêmement intéressante, et qui se retrouvait déjà dans la stratégie de sécurité nationale, où en effet, il semblerait que le consensus se soit stabilisé au sein de cette administration-là, notamment après la défaite, on va dire, des tensions commerciale très violente qu'ils avaient orchestrée vis-à-vis de la Chine, pour se recentrer, ou en tout cas recentrer leur attention politique sur des zones et des périmètres vis-à-vis desquels ils se sentent plus à l'aise dans un rapport de force, notamment du fait de leur taille, de la taille respective des différentes économies, y compris de l'économie américaine vis-à-vis de l'économie européenne. Mais pour revenir au sujet de la réaction européenne, il y a une lenteur structurelle à décider à 27, qui d'ailleurs est reflétée dans l'organisation de nos traités et de comment on procède pour décider, pour donner un ordre d'idée peut-être. Une loi en France, entre l'intention et l'application sur le terrain, vous avez environ 1 à 2 ans, en fonction bien évidemment des discussions politiques qu'il peut y avoir au milieu. Dans l'Union européenne, c'est plutôt entre 4 et 6 ans. Et parce que, en effet, décider à 27, nous avons collectivement décidé que cela devait prendre du temps. Mmh. Nous nous astreignons à un certain nombre d'études d'impact, à un certain nombre de procédures qui permettent de s'assurer que l'avis d'un maximum d'États membres, d'un maximum de parties prenantes, construisent une forme de consensus ou de compromis collectif qui permettent d'avancer ensemble.
Mais c'est une pesanteur qui, avec l'accélération du monde, n'est plus tenable.
Et c'est là où, en effet, les Européens sont face à un vrai dilemme sur nous avons été pensés pour un monde qui n'est plus celui dans lequel nous évoluons actuellement. L'ironie terrible qui pourrait être soulignée pour nous, Français, c'est que les autorités françaises qui, depuis 25 ans, demandent l'émergence d'une Europe politique, d'une Europe puissance, d'une Europe qui est plus agile, sont aujourd'hui totalement incapacitées politiquement au niveau national, je pense que tout le monde l'a bien en tête, mais aussi en matière économique et budgétaire, pour réellement pouvoir peser dans ces conversations. Et en effet, quand la France continue de demander des eurobonds, alors que nous ne sommes toujours pas fichus de savoir comment nous allons rembourser la précédente itération d'engagement financier commun européen autour du plan de relance Covid, qui pour le moment n'est pas financé. Nous avons pris de la dette, nous avons dit que nous allons nous mettre d'accord sur des ressources nouvelles pour pouvoir payer les intérêts de cette dette et rembourser cette dette, pour le moment, il n'existe pas de décision. Et donc la France, en arrivant et en demandant déjà une nouvelle itération de cet effort financier commun, forcément crispe un peu la discussion. De la même manière, quand une entité quasi officielle comme le commissariat au plan vient proposer 30% de droits de douane uniformes sur la totalité des importations chinoises.
Oui, là, franchement, ça a été le ricanement partout en Europe.
Au moment même où les Européens sont littéralement en train de discuter de nouvelles barrières tarifaires vis-à-vis des Chinois. Bien évidemment, cela crispe complètement la discussion, beaucoup plus que cela ne permet de la faire avancer. Et cela affaiblit un peu plus des positions françaises qui sont déjà extrêmement faibles en ce moment du fait des difficultés politiques et économiques évoquées.
Sébastien Jean, on parle beaucoup des États, évidemment, s'agissant de politique commerciale. Mais ce qui est en jeu, il y a les consommateurs, c'est-à-dire nous tous, et il y a les entreprises, tout le secteur privé ou semi-public, surtout en France d'ailleurs, qui doit naviguer dans cet océan d'incertitudes, et ce d'autant plus que pour stabiliser en fait ces accords commerciaux depuis quelques mois, beaucoup d'investisseurs européens et français ont misé massivement sur le marché intérieur américain en disant ça va consolider ces accords. Donc qu'en est-il aujourd'hui ?
Oui, pour les entreprises, c'est vraiment un changement d'air qui demande une sorte d'évolution de leur culture, de l'appréciation de leur environnement. C'est le surgissement, au fond, de nouveaux types de risques qu'on peut nommer le risque géopolitique. C'est-à-dire que on ne peut plus avoir confiance dans le respect des règles par les principaux acteurs. On ne peut plus avoir confiance dans un cadre politique suffisamment pacifié pour considérer qu'il va être stable. Et il faut s'adapter. Alors, ce qu'on a vu, c'est d'ailleurs au cours des derniers mois, c'est que le commerce mondial, les règles, enfin, toute cette mondialisation, finalement, elle est déréglée. Mais ça ne veut pas dire du tout que le commerce se soit effondré. Vous l'aviez mentionné en introduction, le commerce mondial est dynamique. Mais simplement, il prend des formes qui sont très sujettes à ces pressions, à ces tensions transactionnelles. Alors, comment on s'adapte? Je crois que, d'une part, c'est difficile parce qu'il y a toute l'inertie culturelle, mais d'autre part, pour moi, il faut développer de l'anticipation, une capacité d'anticipation, et souvent ça fait pas vraiment partie du logiciel des entreprises d'essayer de réfléchir, d'avoir des analyses suffisamment approfondies pour développer une capacité d'adaptation. Il faut développer l'agilité, de la réaction et il faut développer l'assurance. Il me semble qu'il y a, dans un premier temps, pour aller vers tout ça, une prise de conscience importante de l'impact majeur que peuvent avoir les chocs géopolitiques. Je prends juste deux exemples. Aujourd'hui,
c'est le cas d'en parler ce matin.
Oui, absolument. On a une illustration flagrante aujourd'hui. Mais regardons le contraste, par exemple, aujourd'hui, entre certaines entreprises allemandes. Je pense, par exemple, à Volkswagen et BASF, qui ont des investissements colossaux en Chine, qui font que, au fond, ils sont pieds et poings liés avec l'économie chinoise. Ils ont finalement des intérêts trop important en Chine pour s'en défaire. Ça les place dans une situation qui, vis-à-vis de laquelle la montée des tensions avec la Chine est extrêmement dangereuse, en fait, pour le groupe. Mais profondément, structurellement.
Et on l'a vu, puisque le chancelier allemand était à Pékin il y a
quelques
jours.
Absolument. Et on voit d'ailleurs que l'intérêt de ces grands groupes n'est pas celui de l'État allemand. Et ça amène d'ailleurs aujourd'hui l'État allemand de dire, attention, nous ne sommes pas caution de vos investissements en Chine. Donc il y a des enjeux majeurs pour eux. Je fais le contraste avec les entreprises coréennes. Les entreprises coréennes, dès les années 2000, se sont mises, elles avaient beaucoup d'investissements en Chine, elles se sont mises massivement à investir au Vietnam. Alors évidemment, il y avait derrière des considérations économiques, les salaires commençaient à monter en Chine, ils étaient plus faibles au Vietnam. Mais quelle préscience après coup ! Quelle préscience dans le fait d'aller déplacer sa base de production massivement vers le Vietnam et avec lequel il y a beaucoup moins de tensions politiques aujourd'hui. Donc là, il y a quand même une anticipation qui, d'ailleurs, n'est pas pour rien dans la stratégie, la montée en gamme de Samsung aussi, qui, je pense, est quelque chose à méditer en contraste avec ce qu'ont pu faire d'autres grandes entreprises. Les enjeux sont structurels.
Et donc, un conseil à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de faire appel à des experts comme vous. Parce que effectivement, la prise en compte de la complexité et de l'accélération géopolitique sont absolument considérables. Et donc, comme il nous reste quelques minutes simplement, et que nous sommes en direct, bien sûr, comme tous les samedis, donc, où on est ce matin, donc à midi moins 3, où en est l'attaque conjuguée israélo-américaine contre l'Iran, la télévision iranienne confirme que le guide suprême et le président iranien font partie des cibles visées par cette attaque. On ne sait rien de plus sur leur sort. Et l'Iran a riposté en bombardant la marine américaine à Bahreïn, en bombardant aussi à Doha, enfin, en fait, dans le Golfe, tous les endroits où les États-Unis ont des bases. Donc, le Qatar, Bahreïn et Abu Dhabi, les espaces aériens, évidemment, de toute la péninsule arabique sont fermés. Et le président américain, sur son site Truth Social, encourage les Iraniens à se débarrasser du régime des Mollahs et il dit textuellement, bon maintenant, une fois que nous aurons fait le travail, eh bien c'est à vous de prendre en charge votre propre part et il faut vous débarrasser de ce régime. Donc voilà où nous en sommes ce matin. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir ajusté en quelque sorte nos discussions à cet événement majeur qui est en train de bouleverser évidemment tout le Moyen-Orient et les équilibres commerciaux et économiques dans le monde. Merci à vous, Sébastien Jean. Vous avez fait paraître en mai dernier, précisément, une note pour l'Institut français des relations internationales. Trump s'en va en guerre commerciale. Quelle réponse pour l'Union européenne ? François Schmitz, sur le site de l'Institut Montaigne, le mois dernier, sécurité économique. Il faut nous donner les moyens de notre sécurité dans un monde toujours plus menaçant. Anne Desine, je rappelle votre ouvrage « Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale », paru aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Et Elvire Fabry, vous venez de publier il y a deux jours un papier sur le site de l'Institut Jacques Delors sur l'insoutenable volatilité des tarifs de Trump. Voilà, à la réalisation ce matin, je remercie Louise André, à la technique Grégory Wallon, à la préparation bien sûr Théa Corlaire et Patricia Miura de la documentation de Radio France. Nous sommes samedi, voici Marina Carrière-Dancos et ses carnets de santé. Bon week-end et à samedi prochain.